commence à marcher à l'instant.
Et vous êtes beau, hein.
Alors c'est...
Non, mais tu n'as pas besoin de nous présenter ça.
Maintenant, ça va tenir. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Bonjour Tarsis. Ce matin, je voudrais vous parler de la valeur des objets, la valeur des personnes, de nous-mêmes, notre valeur. Et avant de commencer, je voudrais parler un petit peu d'économie. En économie, il y a deux familles. Il y a ceux qui pensent que les objets ont une valeur objective et ceux qui pensent que les objets ont une valeur subjective. Et c'est un débat qui a eu lieu... C'est un débat qui a eu lieu au XIXe siècle et ce débat, il a été tranché. Ce débat a été tranché avec la notion de rareté. En effet, l'eau n'a pas de valeur pour nous qui pouvons tourner un robinet et la faire couler. Mais elle peut être la source de guerre, notamment au Moyen-Orient, ça on le sait. On sait que la valeur d'un verre d'eau dans un désert, ça peut être énorme. Donc on peut considérer effectivement que la valeur qu'on accorde aux choses est plutôt subjective. Et je voudrais illustrer ça par deux points. Il y a maintenant 3 semaines, j'ai perdu mon téléphone portable. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand j'ai réalisé, j'ai retourné l'endroit où je pensais l'avoir perdu. Et cet endroit, c'était un parking. Et j'y ai passé 1 heure. Regarder sous toutes les voitures là où je pensais pouvoir c'était, où je pensais que ça pouvait être. Et ce parking, c'était à Saint-Quentin. J'ai fait 1 heure pour retourner, pour aller voir où était mon téléphone. Et pendant 3 jours, je me suis senti démuni. Et je racontais ça à Jacques Rémy, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé une main. C'était terminé, je ne pouvais plus regarder mon téléphone 100 fois par jour. Je ne pouvais plus regarder ce qui se passait sur Facebook. Je ne pouvais plus regarder mon compte en banque. Je ne pouvais plus regarder les résultats sportifs toutes les 10 minutes. Je ne pouvais pas regarder les prochaines séances de cinéma. Je ne pouvais pas regarder la météo, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était complètement idiot, en fait. Ce n'était pas si important que ça. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ce téléphone, qui n'est pas tout à fait celui que j'avais au démarrage. Et d'ailleurs, c'est Céline qui me l'a ramené ce matin parce que je l'avais oublié. Et toutes ces manies avec mon téléphone, j'ai pu m'en passer. De toute façon, mon téléphone de remplacement est tellement lent et nul que, s'il est pourri de toute façon, il sert qu'à téléphoner. Ça sert à ça, un téléphone. Et dans la même veine, un professeur d'économie fit un jour cette expérience avec ses élèves. Il leur distribua à chacun un sac de bonbons mélangés. Alors, dans ces sacs de bonbons, il y avait du réglisse, des fraises Tagada, des bananes, des dragibus, vous connaissez toute la panoplie. Et il leur demanda d'estimer la valeur de ce sac de bonbons et de l'inscrire sur un papier. Et avec tous ces papiers, il trouva une somme globale. Et enfin, il leur donna la possibilité, à ceux qui le voulaient, d'échanger les bonbons qu'ils n'aimaient pas contre ceux qu'ils aimaient. Moi qui n'aime pas les réglisses, c'est sûr, j'aurais donné tous mes réglisses. Et donc, ils pouvaient échanger tous dans un consentement mutuel. Et à la fin, quand tous les échanges furent terminés, il leur demanda d'estimer à nouveau leur sac de bonbons. Et la somme globale de ces bonbons avait été multipliée par 2. Alors qu'il s'agissait des mêmes bonbons au total. Simplement, chacun avait pu choisir ses bonbons, ceux qu'il aimait. Et on peut dire que ces bonbons étaient entre de bonnes mains. Il nous arrive de chanter cette chanson et peut-être ne prêtons-nous pas attention à ces paroles. Tu savais ce qui t'attendait, mais tu t'es dit que j'en valais tout le prix. Alors cette question se pose, en valons-nous vraiment tout le prix? Notre vie vaut-elle vraiment ce que Jésus a fait pour nous? N'est-ce pas pour nous un sujet d'orgueil de s'imaginer digne du sacrifice de Jésus? N'est-ce pas cela raconter que de penser que nous en valons vraiment tout le prix? Quelle valeur accordons-nous réellement à notre vie? Et si notre vie a de la valeur, aux yeux de qui? Et qu'est-ce qu'on en fait? Les membres de la chorale vont penser que je plagie un peu les paroles d'une chanson que nous apprenons en ce moment et que vous pourrez entendre prochainement le 4 juin lors du concert d'À tout cœur. Et c'est bien le cas, je plagie les paroles. Dans notre société occidentale, la vie est sacrée. Elle est sacrée plus que toute autre chose. Et pour régler le paradoxe de l'avortement, par exemple, qui est ôter une vie, on considère qu'un embryon n'est pas une vie. Et ainsi, le débat est tranché. Pour nos contemporains, la vie est une valeur par elle-même. Et pour les aveugles de ce temps, la vie n'a pas besoin de sens. Elle n'a pas besoin de direction. Et c'est pourquoi ils se persuadent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et je crois que c'est Pierre Andrzejewski qui a posé cette question il y a quelques semaines. En quoi votre vie en Dieu est-elle difficile? Et encore cette question, quel sacrifice avez-vous consenti dernièrement pour Dieu? Et consenti entre guillemets. Si votre réponse est du temps, de l'énergie, ou quoi que ce soit, ou si vous avez une réponse autre chose que « pas assez » à cette question, votre réponse est mauvaise, car ce n'est jamais assez. En Luc, chapitre 17, au verset 7 à 10, nous sommes enseignés sur notre réel état, notre état de serviteur. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, sainte-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance au serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » La seule réponse qui vaille à cette question « Avons-nous fait des sacrifices ?» c'est tout simplement pas assez. Nous qui avons reçu la parole, rendons-nous humbles devant le Seigneur et soyons à son service sans réserve, sans retenue. En Matthieu chapitre 13, au verset 3 à 9, Jésus enseigne en parabole. Et je le dis à chaque jeune baptisé, mais à tous ceux également qui sont plus mûrs dans la foi, recevoir la parole avec enthousiasme au début ou par moment ne suffit pas. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors c'est une parabole qui est très connue et qui, je trouve, met en garde nous met en garde contre ce qui peut nous séparer de notre Seigneur. Et Jésus explique cette parabole à partir du verset 18. Et je crois que je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, donc je vais parler. Alors ceux qui reçoivent la parole mais qui ne la retiennent pas, ceux qui, à qui les oiseaux enlèvent les grains, bah c'est le malin qui enlève la parole. Et on peut les assimiler aux athées ou aux agnostiques. Ceux qui préfèrent penser selon le monde plutôt que de... Alors, j'ai entendu cette expression cette semaine, cette hypothèse de Dieu. Ils rejettent l'hypothèse de Dieu. C'est toujours extraordinaire d'écouter ces philosophes parler d'hypothèse. L'autre groupe de personnes, donc c'est... ceux qui reçoivent la parole avec enthousiasme, eh ben, ce sont des gens qui sont sans racines. Ils s'enthousiasment pour un message nouveau, pour de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, pour ce Jésus qui les aime et qui est mort pour le pardon de leurs péchés. Mais ce manque de réflexion, ce manque de racines, ce manque de réflexion sur les conséquences de ce choix de la vie pour Dieu, ces choix radicalement différents à prendre par rapport à ce qu'encourage le monde, cette révolution à entreprendre dans notre vie, comprendre que la repentance est un changement de direction, un changement d'état d'esprit, pas seulement un changement d'intelligence, mais un changement de nature entière. Mais ce changement est trop dur pour eux. C'est ce changement de point de vue envers Dieu et le péché qui est porté par un cœur contrit d'avoir péché et de les confesser et s'en détourner pour se tourner vers Dieu et sa justice. Mais au contraire, ceux qui sont sur le chemin pierreux, ceux qui ne reçoivent pas avec réflexion et discernement la parole de Dieu, eh ben, à la première épreuve, et pour les ados et pour les jeunes adultes, c'était là souvent ce copain ou cette copine qui n'a rien contre Dieu, chose qu'on a entendue si souvent, ça peut être une dispute à l'église qui rend tout à coup tout le monde moins bon qu'il ne l'était réellement. Voilà toutes ces choses qui sont une occasion de chute. L'autre groupe de personnes, ceux qui sont étouffés par les épines. On a tendance un peu, lorsqu'on explique cette parabole, à un peu mélanger les deux groupes de personnes entre ceux qui n'ont pas de racines et ceux qui sont étouffés par les épines. Mais il ne s'agit pas du même public. Il n'est fait ici aucune mention du temps que prennent les racines pour monter. Seulement, les problèmes liés à nos occupations de tous les jours, notre travail, notre famille, les loisirs, toutes ces choses-là ont une influence petit à petit sur notre perception de la vie. Et que ça peut être au bout de 5 ans, ça peut être au bout de 10 ans, ça peut être au bout de 20 ans, et bien toutes ces choses-là peuvent finalement étouffer la parole que nous avons reçue. Semer en nous, cette parole, en effet, elle n'a plus d'effet en nous. Et plus rien ne nous distingue du monde. Et il n'y a aucune notion de temps ici. Et là, alors, se repose cette question, quel sacrifice pour Dieu dans notre vie récemment? Qu'est-ce que nous a coûté notre vie pour Dieu? Et enfin, le dernier groupe, c'est la bonne terre. Il s'agit ici du serviteur, celui qui sert sans réserve, sans retenue, et qui rayonne autour de lui de la grâce. Et en effet, la parole ne peut pas rester sans effet dans sa vie. Et on lit en 1 Pierre, au chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés. Nous avons été renouvelés. Et la régénération, c'est la faculté d'une entité vivante à se reconstituer après destruction d'une partie de cette même entité. C'est-à-dire que nous avons été renouvelés. Alors, dans quel groupe se trouve-t-on ? Avons-nous des racines fortes ? Est-ce que nous nous préservons de ces épines qui peuvent monter dans nos vies ? Ou alors, donnons-nous du fruit ? Alors, de quoi est remplie notre vie ? Quel est son sens ? Pour revenir à notre nouvelle chanson d'À tout cœur que nous vous présenterons le 4 juin prochain, le titre, c'est la mesure d'une vie. Et la question posée, c'est à quoi mesure-t-on la valeur d'une vie ? Et la réponse, qui, je l'espère, est évidente et est agréablement chantée par les ténors, entre autres, c'est en Jésus-Christ. La valeur d'une vie se mesure en Jésus-Christ. C'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne toute sa valeur à notre vie. Alors oui, je viens de faire une blague, évidemment, mais retenez bien, c'est Jésus qui donne la valeur à notre vie. C'est son sacrifice sur la croix. C'est lui qui a pris sur lui toutes nos fautes et nous a appelés ses frères. Il nous a appelés ses sœurs. Et désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu. En 1 Jean chapitre 3, au verset 1 à 2, nous lisons « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous avons été appelés enfants de Dieu. Voilà notre valeur et notre seule valeur. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Alors, cette valeur, nous avons encore cet exemple de grâce en 2 Samuel chapitre 9, au verset 1 à 13. C'est l'exemple que donnent David et Mephibosheth, le fils de Saül. David est une figure de Christ dans l'Ancien Testament et on a beaucoup d'enseignements à recevoir de toutes ces histoires, de tout ce que l'on peut lire dans l'Ancien Testament. Et David ici est celui qui fait grâce. Et si David est une figure de Jésus, alors ce Mephibosheth, on va voir de qui il est la figure. Alors c'est important. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Et Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Alors Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Si David est cette figure de Jésus, alors ce Mephibosheth, c'est une figure de nous-mêmes. C'est nous, ce boiteux. Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter de manger à la table de David? Rien. Rien du tout. Mais il était simplement fils de Jonathan, ami de David. Et c'est une grâce qui lui a été faite. Et il pose cette question, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Avons-nous, partageons-nous, cette humilité de poser cette question à Dieu ? Qu'est ton serviteur ? Qu'est-ce que nous sommes pour qu'il nous regarde et qu'il nous accorde sa faveur ? Alors ce Mephibosheth, c'est toi, c'est moi. Ce boiteux depuis l'enfance, c'est nous. Une vie sans direction, une vie sans sens, une vie sans la valeur que Christ lui donne, est une vie instable, une vie boiteuse. Et je le répète, c'est Dieu qui donne de la valeur à notre vie. Alors, puisque notre valeur réside uniquement en Jésus-Christ, alors rendons-nous ses serviteurs sans réserve, sans retenue, sans nous considérer comme justes ou bons, mais considérons-nous simplement comme des serviteurs.